tout de suite, on va écouter Marie Darod, qui va nous parler de cette thématique. Ce qu'on propose, c'est de faire les deux interventions et puis les questions à la fin, si vous êtes d'accord.
Donc bonjour à tous, je suis Marie Darod, pharmacien à l'hôpital Foch à Suresnes. Donc je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé d'intervenir et pour parler un petit peu avec vous du contexte en pharmacie pour la simulation. Donc c'est un sujet assez vaste, je vais essayer de le traiter de manière ordonnée en commençant par la formation initiale, la formation continue, parler un petit peu du développement justement de la simulation au sein de notre discipline et puis ensuite parler un petit peu des perspectives. Donc une petite introduction, donc comme la médecine à l'époque, en pharmacie, la simulation est très développée aux États-Unis depuis les années 2010 à peu près. Ça fait suite aux nouvelles recommandations, aux exigences du diplôme en pharmacie créé en 2007 par le conseil d'accréditation des programmes de pharmacie qui ont introduit 300 heures d'expérience pratique de la pharmacie dans le cursus des pharmaciens. Donc du coup, ça a donné une porte ouverte au développement de la simulation. Il y a une publication d'ailleurs de 2013 qui annonce que la majorité des universités ou des écoles utilisent la simulation haute fidélité ou le patient standardisé. Au niveau des techniques utilisées, on retrouve beaucoup de littérature et j'utilise vraiment toutes les méthodes de simulation, que ce soit la simulation synthétique, ce qui peut paraître un petit peu bizarre en pharmacie, la simulation humaine et la simulation électronique. Les compétences visées, donc c'est des compétences cliniques, thérapeutiques, classiques et d'urgence, l'analyse pharmaceutique et la communication interprofessionnelle. Alors, je précise interprofessionnel avec les équipes soignantes, parce que ce qui est très intéressant, c'est que par contre, on ne retrouve aucun projet sur la communication au sein des équipes pharmaceutiques. Il n'y a que les pharmaciens qui sont concernés, les préparateurs en pharmacie ne sont pas inclus dans ces formations interprofessionnelles. Contrairement à en France, c'est très peu développé en formation continue. Et comme je vous disais, en France, on a un développement qui est plus récent, qui date de 2014-2015, mais qui est rapide, parce que du coup, en médecine, vous avez quand même beaucoup débroussaillé. Les recommandations sur la simulation datent maintenant de plusieurs années. Et donc, on rattrape rapidement notre retard. Et ce développement, il est autant en formation initiale qu'en formation continue. Donc pour parler un petit peu du contexte en formation initiale, il me paraissait intéressant quand même de vous présenter vite fait le cursus des études de pharmacie. Donc après le concours de première année, il y a un tronc commun de 2 ans. Et le début de spécialisation se passe qu'en 4e année de pharmacie. L'étudiant choisit donc la filière officine, internat ou industrie. Et en 5e année, la seule chose commune, c'est l'externat avec l'année hospitalo-universitaire et la présence à mi-temps de l'étudiant à l'hôpital. Les cours sont spécialisés après par filière. Et la 6e année, c'est une 6e année qui est complètement spécifique à la filière. Donc moi, je vais surtout parler donc, de l'officine, où il y a 6 mois de cours, puis 6 mois de stage de fin d'études avant d'attaquer la pratique professionnelle. Et puis l'internat avec ses 8 semestres. Et donc là, je ferai un focus sur la pharmacie hospitalière. Donc, quelle est la place de la simulation en pharmacie? C'est comme en médecine. Ça nous permet de faire un pont, un lien entre l'enseignement théorique et notre pratique professionnelle. Donc, du coup, le plus gros intérêt, il se passe au niveau de la spécialisation. Et donc, c'est en officine, en 5e et 6e année, avant le stage de fin d'études, que les projets de simulation tiennent leur place. Et donc là, c'est le rôle de la faculté. Et pendant l'internat, tout au long de ces 8 semestres, il va y avoir des projets qui peuvent être mis en place par la faculté, puisque l'interne continue à avoir certains cours, mais également par l'hôpital. Alors, comme je vous disais, il y a un tronc commun qui est important, et au final, l'étudiant, il arrive en 5e année, il a un socle de connaissances et de compétences communs, qui sont des compétences cliniques et surtout thérapeutiques. Mais ensuite, suivant la filière, il y a quand même des challenges différents. Donc, par exemple, en officine, il va falloir préparer l'étudiant à se confronter à une multitude de patients qui ont des profils différents, différentes pathologies, et ça va être la communication patient qui va être vraiment au cœur. À l'hôpital, c'est un petit peu différent. On arrive à l'internat, donc déjà, c'est des secteurs très spécialisés. Des fois, on n'a même pas eu de cours, par exemple, sur la stérilisation. Nous n'avons pas de cours en formation initiale là-dessus. C'est des secteurs qui sont très spécifiques et certaines techniques presque, avec par exemple la manipulation des cytotoxiques, etc. Et à côté de ça, il y a une activité de garde qui, elle, est polyvalente. Au final, on arrive dans une équipe pluriprofessionnelle, et c'est la communication équipe au sein de la pharmacie qui va être importante, la communication avec les services de soins et les prescripteurs, et au final, la communication patient, elle est intéressante sur certaines des activités. Donc actuellement, c'est très développé, comme je vous disais, en officine, et on commence à trouver quelques exemples en formation initiale dans la filière internat pharmacie hospitalière. Alors en officine, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, il y a un historique. En 1997, il y a l'Association pour la promotion des pharmacies expérimentales qui a été créée. Et donc au final, toutes les facultés, enfin c'est des données de 2014, mais 18 facultés sur 24 avaient au sein de leur faculté une officine expérimentale. Elle était plus ou moins développée, plus ou moins utilisée. C'était pas aussi formalisé avec des séances de simulation, briefing, mise en situation et débriefing. Mais en tout cas, l'objectif était le même qu'en simulation, c'était de préparer les étudiants à la pratique officinale. Donc au final, les environnements, ils existent déjà dans la plupart des facultés. Les techniques les plus utilisées en formation initiale en pharmacie, ce sont le jeu de rôle et la simulation électronique, bien sûr, avec un intérêt par les facultés de former en masse. Et donc la simulation électronique est intéressante à ce niveau. Donc je voulais vous présenter quelques exemples. Donc, par exemple, un projet qui a été développé à l'Université de Lille, c'est une formation à la pratique officinale. Donc, c'est une formation qui est proposée aux 5e et aux 6e années de cette filière. Et ça combine deux approches. Une approche de Serious Games, où du coup, l'étudiant va pouvoir faire la synthèse de toutes les connaissances cliniques et thérapeutiques acquises pendant sa formation initiale. Et derrière, ensuite, combiné avec un jeu de rôle et une mise en situation au sein de cette fameuse officine expérimentale, et où là, l'objectif va être de travailler tout ce qui est communication avec le patient. En pharmacie hospitalière, sur la filière internat, donc il y a certains DU qui commencent à intégrer la simulation dans leur méthode pédagogique. Par exemple, un DU de préparation médicamenteuse aseptique, ils utilisent la simulation donc, sous forme de hôte des erreurs pour traiter les bonnes pratiques de préparation. Alors c'est vrai, ça peut être très lourd, c'est réglementaire, ces bonnes pratiques de préparation. Donc pour compléter une théorie qui peut être lourde, ils ont intégré la simulation avec un côté plus ludique et obtiennent de bons retours. À la faculté de Paris-Descartes, nous avons introduit la simulation au sein d'un DU de gestion des risques. Donc nous présentons la simulation, quelle est sa place en gestion des risques, et puis on leur explique un petit peu comment on peut la mettre en œuvre. Alors ici, quelques exemples qui sont développés par l'hôpital. Donc par exemple, à l'hôpital Foch, nous avons développé une formation pour les internes à l'analyse pharmaceutique. En effet, nos internes, ils arrivent, donc ils ont été formés, ils savent analyser une ordonnance. Ce qui est plus compliqué, c'est de leur expliquer la pratique un petit peu à l'hôpital, qu'on ne va pas déranger le réanimateur ou l'anesthésiste n'importe quand, comment leur amener les interventions pharmaceutiques que nous souhaitons faire. Donc là, cette formation, c'est vraiment un objectif de déstresser l'interne et de travailler sur la pertinence de ces interventions pharmaceutiques et la communication avec le prescripteur. Derrière, on a développé aussi un scénario sur la prise de garde pharmaceutique. Donc, comme je vous disais, l'interne, il va être seul en garde et il va être confronté à des questions sur l'ensemble des secteurs de la pharmacie. Donc, du coup, on avait développé ce scénario pour leur apprendre à gérer le stress, les ressources qui sont disponibles en garde quand ils sont seuls, prioriser les demandes. Mais du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait pour tous les internes à la fin de la formation de garde, à leur arrivée? On peut parler d'une certaine habilitation. Donc, pour des raisons logistiques, ça a été compliqué de le mettre en œuvre auprès de tous nos internes, mais on l'a déployé auprès d'internes qui en ressentaient le besoin et qui étaient très stressés par la prise de garde. Donc voilà, donc du coup maintenant j'ai parlé un petit peu du contexte en formation continue, et du coup je voulais vous présenter déjà un petit peu la pharmacie à usage intérieur à l'hôpital. Donc on est des équipes pluriprofessionnelles, il y a des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, des magasiniers, des agents, des coursiers, des externes, des internes bien sûr. Et il y a différents secteurs qui vont être très spécialisés. Au sein de chaque secteur, il va y avoir différentes activités. Dans le médicament, avec la pharmacie clinique, l'analyse pharmaceutique, le conseil de bon usage médicament, l'entretien pharmaceutique, la conciliation médicamenteuse, enfin, de nombreuses activités de pharmacie clinique. Il y a la pharmacotechnie, avec la préparation des cytotoxiques, la radiopharmacie, la nutrition parentérale ou les activités de préparatoire. Puis les secteurs dispositifs médicaux, le secteur stérilisation et les essais cliniques qui se positionnent un peu en transversal puisqu'on a des essais cliniques dans les DM, les médicaments ou les cytotoxiques. Et bien sûr, au centre de tout ça, ben, il y a le travail d'équipe et le management, mais aussi la gestion des risques que nous essayons d'assurer sur les différents circuits des produits de santé. Alors, le contexte réglementaire, ben, on a un peu tous le même aussi. L'arrêté du 6 avril 2011, par exemple, qui nous impose de former tout nouveau arrivant, et notamment sur tout ce qui est lié à la prise en charge médicamenteuse. Notre personnel pharmaceutique est soumis au DPC, donc les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Et puis alors le contrat de bon usage aussi, qui est devenu le fameux CACES, sur lequel il y a des critères sur cette formation à la prise en charge médicamenteuse. Donc derrière, moi, je vais faire un focus vraiment sur les activités pharmaceutiques, puisque Rémi reprendra plus la partie transversale prise en charge médicamenteuse. Donc si je fais un focus sur la pharmacie, en formation continue, nous utilisons la simulation à la formation à la prise de poste. Alors, je ne parle pas de formation initiale, puisqu'on n'est plus du tout dans la formation initiale, mais par exemple, quand nos préparateurs arrivent dans nos unités, même s'il a déjà fait de la manipulation de chimiothérapie dans un autre établissement, nous devons le reformer, nous devons nous assurer qu'il a les bons gestes. On ne travaille pas forcément avec les mêmes équipements. Certains vont avoir des hôtes, d'autres des isolateurs. Certains vont travailler avec certains dispositifs médicaux ou non. Donc là, ça va être très, très intéressant, la simulation procédurale, pour pouvoir former les nouveaux arrivants, notamment dans les secteurs de production, la pharmacotechnie, la stérilisation, les essais cliniques, et dans la réalisation de gestes techniques, mais aussi dans la mise en œuvre de procédures, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je parle d'habilitation, donc on n'est pas dans de la certification, mais avant de libérer seul le préparateur sur la préparation de chimiothérapie, ben, on doit quand même évaluer sa pratique, être sûr qu'il ne contamine pas tout son poste de travail, qu'il prélève de la bonne manière, qu'il ne fait pas de gestes à risque, c'est des produits dangereux. Donc on utilise aussi la simulation pour les habiliter. Et puis derrière, on l'utilise en formation continue et pour le développement professionnel continue, mais là dans tous les secteurs, puisqu'on va avoir une approche de gestion des comportements pour travailler sur le travail d'équipe, et puis de gestion des risques, on reproduit des événements indésirables qui ont pu se passer pour les travailler et mettre les mesures correctrices en place. Donc actuellement, c'est très développé en pharmacotechnie, mais des initiatives, comme je vous disais, dans tous les secteurs. Les techniques les plus utilisées, donc c'est toujours le jeu de rôle. Alors là, soit in situ, soit dans des environnements haute fidélité, comme au centre de simulation à Foch, nous avons recréé une salle de simulation sur la préparation des cytotoxiques, ou en environnement reproduit, comme aux hôpitaux de Genève, par exemple, où ils ont fait avec les moyens du bord et reproduit comme ça une zone à atmosphère contrôlée pour former leurs équipes. Et puis, il y a la réalité virtuelle aussi, avec notamment les projets de la DIF qui développent des chambres des erreurs virtuelles. Donc quelques exemples justement sur l'utilisation de la simulation en prise de poste et habilitation du personnel. Donc sur l'activité de préparation des cytotoxiques, par exemple, le CHU de Nice a développé une formation destinée aux préparateurs qui comporte trois volets de complexité croissante. Donc le premier qui est très technique, c'est de la manipulation simple, juste j'apprends à faire une préparation à partir de ma fiche de fabrication. Le deuxième volet, où on va commencer à introduire le travail d'équipe avec la notion de double contrôle et d'organisation en équipe. Et le troisième volet, là, qui est complètement non technique, où on met les préparateurs un petit peu en situation de stress pour voir comment ils réagissent. À Foch, nous avons également formalisé toute cette formation à la prise de poste des préparateurs sur le secteur des chimiothérapies. Et donc, pour vous, juste vous illustrer, cette formation est de 140 heures. Donc, elle est répartie sur une durée de 2 mois à peu près. 6% c'est de la théorie, 34% de la simulation procédurale et 60% du compagnonnage au sein de l'unité réelle. Et cette simulation, elle est utilisée donc à 85% pour la formation et à 15% pour l'habilitation et des étapes d'évaluation tout au long de la formation. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet du coup de donner des responsabilités croissantes aux préparateurs tout au long de sa formation. En formation continue et le développement professionnel continu, aux hôpitaux de Genève, ils ont développé une formation assez innovante entre chambre des erreurs et simulation. Ils ont appelé ça l'escape room, c'est-à-dire l'équipe en binôme, pharmacien, préparateur ou de pharmacien, ont un fil rouge, ils doivent préparer une poche de chimiothérapie en 1 heure. Et pour cela, ils vont devoir passer différentes étapes. Et pour passer ces étapes, il faut répondre à des énigmes sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc ça aussi, c'était un moyen ludique de former nos personnels à ces bonnes pratiques de fabrication qui peuvent être très lourdes. Autre exemple en formation continue sur le secteur dispositif médical, par exemple, on a développé à Foch une formation qui combine 2 approches, le magasin médical des erreurs et des séances de simulation avec une approche de gestion des risques et de reproduction d'événements indésirables en environnement reproduit. Alors j'appelle environnement reproduit, c'est qu'on va chercher nos étagères à droite à gauche pour recréer un mini-stock de pharmacie ou une armoire à pharmacie de service pour former nos préparateurs. Donc par exemple, sur le magasin médical des erreurs, il y a 13 préparateurs et 4 magasiniers que nous avons formés cette année. Ils avaient respectivement 8 et 9 erreurs à détecter et donc ils sont à 71% tout à fait d'accord avec le fait que cette formation renforce leurs connaissances et leurs compétences sur le dispositif médical. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça les a resensibilisés à leur rôle dans la diminution des événements indésirables. Alors, pour cela, par exemple, le magasinier ne s'y connaît pas, par exemple, en nutrition parentérale. Donc, pour un petit peu le sensibiliser au fait que quand il range ses poches de nutrition parentérale, il faut faire attention dans le service, ça peut avoir des répercussions. Nous avons mis ce type d'erreur dans notre magasin médical, des erreurs, pour vraiment le sensibiliser à son rôle et que à chaque maillon, on a tous un rôle à jouer dans cette gestion des risques. Sur les séances de simulation, donc pour l'instant, c'est juste à une étape de test. On a fait passer 3 préparateurs et 2 magasiniers sur des événements tels que la communication autour d'une rupture de dispositif médical. Alors pourquoi on leur a fait faire ça? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les magasiniers qui vont dans le service, par exemple, et réalisent la préconisation de commandes en fonction des besoins dans l'armoire à pharmacie, il envoie donc sa préco de commande au préparateur. Il est dans le service. Le préparateur est à la pharmacie, prépare la commande, et donc s'il n'a pas en stock le produit demandé, ne le met pas dans la commande. Le magasinier redescend du service, il ne va pas forcément tomber sur le même préparateur, il n'y a aucune transmission qui lui sont faites sur le fait qu'il y a un des éléments qui n'est pas préparé. Le magasinier remonte dans le service, range au final les références qu'il a sous les yeux et, s'il faut, ne se rend même pas compte qu'il laisse une case vide puisqu'il ne se souvient plus qu'il avait demandé tel produit. Et au final, on perd énormément de temps parce que ça va être le service, quand ils vont en avoir besoin, vont appeler la pharmacie et notamment le pharmacien ou le préparateur référent pour demander pourquoi cela fait une semaine qu'il demande ce dispositif mais qu'il ne l'a pas. Donc il y a quand même des problèmes de communication assez importants autour d'un événement banal qui aurait pu être géré en amont et ne pas attendre le besoin réel du service. Puis derrière, par exemple, aussi la demande urgente, un service qui appelle « je veux tel dispositif médical », mais il ne connaît pas la référence. Et nos préparateurs sont pétrifiés à l'idée de ne pas connaître le dispositif médical dont ils ont besoin. Donc on trouvait ça intéressant de les faire travailler sur déjà les questions qu'ils peuvent poser à l'infirmière ou au médecin qui appelle pour les diriger et essayer de se renseigner au mieux pour répondre à ce besoin. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur ces quelques séances, nous avons réalisé 3 fois ces séances de simulation, donc sur 5 personnes. Au niveau du renforcement des acquis, ben les magasiniers répondent qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait que les séances de simulation leur ont permis de renforcer leurs acquis. Mais en effet, on ne leur a jamais parlé dans leur formation de la communication au sein de l'équipe, etc. C'est vraiment des notions qu'ils n'ont pas eues en formation prise de poste, qui est une formation très logistique sur leur activité. Et à contrario, sur l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences et l'intérêt de ces formations dans l'amélioration de leurs pratiques professionnelles, ils sont tout à fait d'accord et plutôt d'accord avec l'intérêt de ces séances. Juste la préparatrice référente du service a dit qu'elle n'était plutôt pas d'accord, mais parce qu'elle elle est habituée, c'est son travail de manager, et du coup, ça ne lui a pas apporté grand-chose au niveau personnel de faire ces séances de simulation. Donc au final, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises en pharmacie, et je voulais aussi vous présenter donc la place de notre société savante, la Société française de pharmacie clinique, pour essayer de structurer un petit peu ce déploiement qui est très rapide. Donc en termes organisationnels, comment ça se passe? Il y a un groupe de travail qui a été créé au sein de la SFPC en 2015, un groupe de travail transversal qui est en support aux différents groupes de travail existants déjà au sein de la SFPC. Et l'objectif, c'est de promouvoir une méthodologie commune et d'intégrer la simulation dans les parcours pédagogiques qui sont déjà élaborés par la SFPC. Alors l'idéal, c'est de créer bien sûr une banque de scénarios communes, des grilles de compétences communes que nous pourrons échanger. Donc nous travaillons là-dessus et bien sûr d'autres projets. Donc au final, la pharmacie présente un périmètre potentiel excessivement large, que ce soit en formation initiale ou en formation continue pour la simulation. Actuellement, il n'y a aucune réforme de nos études qui a été actée, mais il y a des discussions autour des nouvelles modalités pédagogiques dont la simulation font partie. Alors, on se rend compte que nous, on n'a pas besoin de mannequins, donc c'est un avantage quand même financier intéressant, et avec peu de ressources, on peut faire des séances de simulation intéressantes. On obtient des premiers résultats très intéressants qu'on espère publier rapidement. Et puis, du coup, je voulais ouvrir sur la pluridisciplinarité derrière et aussi le rôle du pharmacien dans tout ce qui est prise en charge médicamenteuse pour introduire Rémi qui va vous faire cette partie-là sur la partie plus transversale du rôle du pharmacien en simulation. Merci.